cette incrédulité conduit à la négligence, à la paresse à écouter. Littéralement, le mot en grec veut dire lent d'oreille. Et ça, ça me rappelle bien mon enfance. Vous savez, quand vous entendez vos parents ou grands-parents qui vous disent « Tu vas me faire ceci ou cela, mais on n'a pas vraiment envie de le faire. » On est lent d'oreille, on fait comme si on n'avait pas compris. Et on laisse courir. C'est ça, une forme d'incrédulité. Ce n'est pas forcément une rébellion ouverte en disant non. C'est avoir entendu le message, l'avoir compris, mais finalement faire comme si on n'avait rien entendu. Et évidemment, ça peut conduire à l'apostasie, d'où les avertissements extrêmement sévères qu'on a ici dans cette épître. Voilà pour la situation de ces gens-là. L'auteur. Ben, comme vous le savez, l'auteur est inconnu, mais il y a beaucoup de noms qui circulent, comme toujours. On est plus malin que l'écriture. Donc chacun a un peu son leader, chacun a sa solution. Beaucoup imaginent que c'est Paul. Et vous trouvez beaucoup de commentateur qui, sans aucun complexe, affirme que c'est Paul. Moi, la Bible ne me dit pas que c'est Paul. D'autres vous diront que c'est Apollos. Luther avait le nom d'Apollos, me semble-t-il, proposé le nom d'Apollos pour auteur de cette épître. On ne sait même pas si c'est un apôtre. Et moi, il m'arrive souvent de dire l'apôtre en parlant de l'auteur de l'épître. Parce qu'il est dit quand même quelque part que au chapitre 2, au verset 3, c'est un texte peut-être un peu difficile, mais au chapitre 2, au verset 3, « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui a commencé d'être annoncé par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu ?» On a l'impression que là, l'auteur évoque les apôtres qui ont confirmé le message biblique. Mais lui, il semble s'en exclure. Il semble dire « Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là ». Donc, vous voyez, on est un peu dans le brouillard. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui, sans que ce soit très sûr, qui pourrait donner l'idée que ce n'est pas l'apôtre Paul. Comment fait l'apôtre Paul quand il cite des textes bibliques de l'Ancien Testament? Eh bien, toujours dans ses épîtres, il utilise cette expression, j'ai relevé, « L'Écriture dit, ou Dieu dit, ou comme Dieu l'a dit », voilà comment Paul introduit chaque fois les citations. Si vous prenez par exemple 2 Corinthiens 6, vous verrez, il y a deux ou trois fois des citations. Et Paul a introduit cette citation, juste avant la citation, comme Dieu a dit. Et dans l'Épître aux Hébreux, sauf une fois, à ma connaissance, on n'a jamais ce genre de petite phrase avant. La phrase est introduite directement. Alors c'est vrai, on peut dire que Paul, comme il s'adresse en général à des païens, il a besoin de dire, écoutez, ce que je vais vous dire, c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'il n'a peut-être pas besoin de le faire avec des juifs, qui eux sont censés connaître les Écritures. Mais voyez qu'on peut hésiter et que la prudence devrait nous amener à ne pas donner un nom d'auteur quand la Bible ne nous en donne pas. Et c'est vrai pour d'autres livres. Je pense au livre de l'Ecclésiaste, sur lequel il y aurait beaucoup de choses intéressantes à dire, mais ce n'est pas notre sujet. Donc l'auteur est inconnu. La date. On voit qu'apparemment le service du culte dans le temple se fait encore à cette époque. Et donc il faut situer la date de rédaction de cette épître avant 70 de notre ère, qui est la date de destruction du temple par les Romains. Donc on a dit autour de 64, 65, on n'est pas à un an ou deux près. Et c'est la raison pour laquelle ma petite histoire d'introduction, je l'avais datée de 64. Le but de la lettre. Je vous donne, peut-être avant de passer au but de la lettre, une indication sur l'acceptation de cette épître dans le canon biblique. Vous savez qu'on avait pour la seconde épître de Pierre pas mal évoqué ce sujet. Ici, il n'y a pas eu de problème. C'est-à-dire que très vite, l'épître aux Hébreux a été citée par exemple, Clément de Rome, très tôt, dès la fin du 1er siècle. Et puis ensuite, par Irénée, par Tertullien, elle a été reconnue très vite comme canonique aux différents conciles, notamment celui de Nicée en 325. Le but de la lettre, ça c'est plus intéressant. L'auteur donc écrit à ses co-religionnaires, à des Hébreux. Et lui, l'auteur, il a une très bonne culture hébraïque. C'est quelqu'un de très très savant en matière de culture hébraïque. Alors, il les écrit pour les dissuader de revenir au judaïsme. C'est ce qu'il appelle la parole d'exhortation au chapitre 13, quand il fait sa conclusion, la conclusion de cette lettre. Il dit, je vous exhorte, frère, à supporter la parole d'exhortation, car ce n'est qu'en peu de mots que je vous ai écrit. La formule, ce n'est qu'en peu de mots que je vous ai écrit, ne veut pas dire que sa lettre est courte ou longue. C'était une formule très utilisée à l'époque pour dire, voilà, j'aurais pu m'étendre plus longuement, mais j'arrête là. C'est tout ce que ça veut dire. Mais ce qui est intéressant, c'est le mot, la parole d'exhortation. Donc, les dissuader de revenir au judaïsme. Les encourager à persévérer dans la foi. Alors, pourquoi j'ai mis ces deux choses un peu ensemble? Parce que le mot exhortation a les deux sens. Si vous prenez la traduction dans la Bible, je pense que vous connaissez tous la Second 21, qui est une traduction littérale, très intéressante, dans le français du XXIe siècle, d'où son nom. Et ils traduisent par « parole d'encouragement ». Le mot, là, est le même mot que « paraclet », qui est attribué au Saint-Esprit, etc. Et également, troisième but, si vous voulez, de cette épître, pour leur montrer la nouveauté et l'excellence du message chrétien. On n'est donc pas en présence véritablement d'une simple lettre, mais de ce qu'on appelle un sermon théologique ou un sermon doctrinal. Et comme tous les sermons de l'époque, il n'y a pas d'introduction. Et on va apporter un soin extrêmement fort, très particulier à la démonstration. On va développer des arguments, on va s'intéresser à la logique et on va s'intéresser à la structure du texte. Ça ne veut pas dire que dans les autres épîtres, il n'y en ait pas. Mais ici, il y a quelque chose qui est tout à fait exceptionnel dans le Nouveau Testament. Il y a une structure qui est très poussée, très fine et que on ne voit pas toujours parce que souvent, ce n'est pas un sujet sur lequel on prête attention volontiers. Alors, comment l'auteur s'y prend-il? Pourquoi j'ai fait une partie là-dessus? Parce que je n'ai pas le temps d'analyser en détail le contenu et les grands thèmes de cette lettre. Donc, j'ai préféré vous en montrer l'originalité, quitte à faire l'impasse sur un certain nombre de choses. Et l'originalité, c'est une structure littéraire qui est très élaboré et qui est au service de la démonstration de l'auteur. Ce qui est vrai, ça rend l'épître difficile. Mais il s'adresse à des gens qui sont sensibles à ce genre d'argumentation, à ce genre de démonstration. Ils avaient une culture, les gens, à l'époque. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Alors, on n'est pas très sensible non plus à cela. Et quel est le but majeur de l'auteur? L'auteur, il veut faire comprendre l'excellence de la personne de Christ, donc, et dissuader, comme je viens de le dire, ces croyants d'abandonner la foi chrétienne. Donc, à mon avis, l'auteur s'y prend de façon très intelligente. C'est un redoutable tacticien. Il va avoir trois éléments dans son cheminement. D'abord, la rupture. Et en général, tous les commentateurs ont bien vu la rupture. Même peut-être, ils ont vu que la rupture, le plus souvent. Et qu'est-ce qui se passe? Imaginez, vous êtes juif, vous êtes attaché à la tradition de vos pères, et vous écoutez la lecture de cette épître. Vous allez sursauter. Parce que tout du long de l'épître, il y a des jugements sans nuance qui condamnent le système juif. Alors, imaginez déjà, c'est une petite introduction à ce que je vais détailler, que l'auteur de l'épître écrit le commandement antérieur, c'est-à-dire la loi pour les Lévites, a été abrogé à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Vous imaginez? Vous êtes juif, vous entendez ça? Vous avez envie de partir. Plus loin, il a l'impertinence de ravaler les rites du culte juif à des rites humains. Il dit, au chapitre 7, verset 16, ce sont des ordonnances charnelles. Quand même, c'est Dieu qui a donné la loi. Comment on peut qualifier d'ordonnance charnelle ce que Dieu a donné? Et comme si toutes ces sentences brutales ne suffisaient pas, il va ajouter beaucoup de choses. Alors, la loi, qu'est-ce que la loi? J'ai cité 7, 18, 19. Donc, le commandement antérieur a été abrogé, c'est ce que je disais, à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a rien amené à la perfection. La loi est condamnée. Le Sinaï, si vous allez au chapitre 12, je ne vais pas lire le texte parce qu'il est un peu long, vous verrez que même Moïse s'approche du Sinaï en tremblant, il a peur. C'est une montagne terrifiante. L'apparition de Dieu au Sinaï, c'est quelque chose qui éprouve Moïse, alors à plus forte raison, le peuple. Le tabernacle. Il nous est dit du tabernacle qu'il est l'ombre des réalités célestes, chapitre 8, verset 5. Et ainsi de suite, au verset 9 du chapitre 9. Il est une figure pour le temps présent dans lequel sont offerts des dons et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait quant à la conscience de celui qui rend le culte. C'est pas très valorisant. Au verset 11 du même chapitre 9, il est parlé de ce tabernacle comme étant fait de main. Il y a une opposition. Celui dans lequel Christ est entré n'est pas fait de main. Mais sous-entendu, l'autre, lui, c'est fait par des mains humaines. Donc il n'a pas beaucoup de valeur. Donc voyez, la loi, on la met de côté. Le Sinaï, c'est une montagne qui fait peur. Le tabernacle, on va le mettre de côté. Le sacerdoce lévitique, eh bien, il nous est dit au chapitre 7 et au verset 11, si la perfection était réalisée par les moyens du sacerdoce lévitique, quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur se lève? Ben, c'est vrai. S'il avait rempli son rôle, il n'y avait pas besoin d'avoir une nouvelle sacrificature. Donc, le sacerdoce lévitique, de côté. La première alliance, pareil, au chapitre 7. Si cette première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une autre, une seconde. Je pense quand même que les Juifs, ils devaient commencer à se dire jusqu'où va-t-on aller? Et même pire que ça, c'est que sans quand même que la parole, parce que la parole c'est la parole, déprécie Abraham, Moïse et Josué, elle ne porte pas de jugement négatif. Mais face au Seigneur, face à Jésus, eh bien on s'aperçoit que Josué, il n'a pas pu faire entrer le peuple dans le repos, lui. Mais Christ le fera. Donc, vous avez quand même une dépréciation des grandes figures d'Israël. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Josué, ils pâlissent, quelle qu'était leur vie de foi d'ailleurs, ils pâlissent évidemment devant la personne de Jésus. Et donc, voilà, cette rupture, la conséquence, c'est que, évidemment, l'Évangile est exalté aux dépens de la loi. Pour une raison simple, c'est que la révélation apportée en Jésus-Christ dépasse tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Et c'est ça le message que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut faire comprendre à ses coreligionnaires juifs. C'est pas que la loi en elle-même était mauvaise. La loi est bonne, dit l'apôtre Paul. Mais ce qui est venu par Jésus-Christ est infiniment plus grand. Et là, il va aussi, dans son texte, montrer qu'il y a une continuité dans la révélation divine. Et en effet, il va dire au fond que Dieu est intervenu dans l'Ancienne Alliance. C'est l'introduction de l'Épître aux Hébreux. Dieu a parlé autrefois, mais il continue à parler dans le Fils. Sans doute, la révélation, la façon dont il a parlé dans le Fils est unique, et à la fois dans le temps, dans le contenu, dans tout ce que vous voudrez. Mais il y a une continuité dans ce fait que Dieu parle. Et donc, en soulignant cette continuité, l'auteur veut amener les juifs chrétiens à comprendre que si apparemment il y a rupture, en fait, il y a la continuité d'un plan divin et qu'ils vont s'inscrire dans ce plan divin. Et le message donc de la révélation que les pères, les prophètes avaient annoncé, qui c'est qui va le réaliser? Jésus-Christ. Et donc il va chercher cette fois-ci, après avoir bien montré qu'il fallait mettre ces choses de côté, mais que, en réalité, ces choses, elles sont mises de côté parce qu'elles vont être accomplies. Elles vont être réalisées. Et, par exemple, quel était le rôle du sacerdoce dans le livre du Lévitique? Vous savez, le livre du Lévitique, pour aller très vite, c'est pas tout à fait juste ce que je vais dire, mais c'est pour vous faire comprendre. Vous avez deux grandes parties. La première partie, chapitre 1 à 16, on peut faire un découpage qui est un peu différent, mais je fais celui-là parce qu'il est simple à retenir. La grande question qui est posée, c'est comment s'approcher de Dieu.